N'avez-vous jamais eu le sentiment de prier parce qu'il le faut? Imaginez la scène. Vous recevez des amis à dîner, le bœuf bourguignon a mijoté pendant des heures, une odeur bien agréable s'est maintenant échappée de la cuisine et remplit le salon. Vous déposez le plat tant attendu sur la table. L'un des convives, poliment, commence le service et, comme un rappel à l'ordre, un autre dit « Bon, qui prie ?» Autre situation, dimanche matin, avant le début du culte, moment spirituel de la semaine s'il en détend. 9h55, la répétition vient de se terminer, et c'est clair, les arrangements qu'on a bossés la veille, ça déchire. Le leader lance « Allez, on y va, on a 5 minutes, on prie ?» Musicien, n'avez-vous jamais prié en pensant plus aux accords qu'à Dieu ? Finalement, pour les plus sérieux d'entre nous, n'avez-vous jamais essayé de vous astreindre à prier à 7h48 chaque matin, entre le petit-déj et le brossage de dents? Avez-vous constaté combien il était difficile de dynamiser, d'étoffer ce temps de prière? Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ces exemples, Paul peut vous aider. Et nous allons lire, l'étudier ensemble, le texte qui se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens. On verra le chapitre 5, ce seront les versets 9 à 22. Verset 9 donc. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Je propose ce matin une approche en deux points. Grand 1, une attitude globale, et grand 2, prier sans cesse. Nombre d'études bibliques et de réflexions commencent par le constat que nous avons le salut en Jésus-Christ. Dans notre texte, Paul commence par une liste de recommandations en rappelant que Dieu nous a destinés à posséder le salut en Jésus-Christ. C'est important de bien commencer en notant ça avant de se lancer dans l'appropriation des recommandations qu'il fait par la suite. Premier verset, verset 9, premier constat. Dieu est l'acteur. Et nous sommes les destinataires. Il nous a destinés à posséder le salut. Nous n'avons pas été élus au mérite pour être dans les bonnes grâces de Dieu. Nous le sommes. Quel soulagement ! Nous ne risquons ni de perdre ce salut, ni de perdre cette relation privilégiée avec Dieu à cause des ratés de notre vie spirituelle. La base de travail est saine. Peu importe le nombre d'échecs ou de tentatives d'avoir une vie plus spirituelle, nous savons que Dieu nous aime, que Dieu nous a déjà donné le salut et que Dieu est toujours proche de nous. Dans le verset 10, nous notons que Paul a utilisé le mot « ensemble ». Second constat, il n'y a ni premier ni dernier. Nous bénéficions tous de la même grâce. Par conséquent, nous pouvons nous soutenir, nous entraider, pour être de meilleurs chrétiens. De plus, Si nous nous en tenons aux critères divins, nous sommes tous nuls. C'est un peu comme si Dieu nous disait « Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Je ne souhaite pas que tu gagnes un 100 mètres au JO. Vous êtes des milliards à courir. Il n'y a pas de meilleur. Ce que je veux, c'est que tu prennes une paire de baskets pas trop usées et que tu te mettes au départ du marathon. » Donc, Dieu nous aime, nous sommes sauvés et nous sommes tous nuls. Maintenant que les compteurs sont remis à zéro, bah, il faut le courir ce marathon. Par course, j'entends sanctification. Et je ne sais pas si vous avez déjà couru un marathon, mais 42,195 km, c'est long. Ceci nous amène aux règles du jeu. Une sanctification en tout point. Thème assez récurrent dans la Bible, la sanctification est un processus très très différent de l'expertise. Il porte sur l'ensemble des aspects de notre vie, public, privé, visible comme invisible. Et pour illustrer ça, je vous propose de nous asseoir sur les bancs de la fac. Personnellement, en deuxième année, à l'IUT d'informatique, j'étais un bon élève. Enfin, disons que dans l'ensemble, j'étais pas mauvais. En programmation, j'étais parmi les meilleurs. En analyse, j'avais à peu près un semestre d'avance. En compta, mes bilans tombaient juste. Mais il y avait une seule matière, architecture, système et réseau, qui était ma bête noire. Le problème, c'était les règles du jeu. La règle stipulait que si dans une seule matière, je n'obtenais pas 8 sur 20 à la fin de mon semestre, je ratais mon semestre. Peu importe ma moyenne générale. À la différence près qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec à la fin du semestre, avoir une vie sanctifiée, c'est globalement la même chose. Dieu ne nous demande pas d'avoir un 20 sur 20 en lecture de la Bible si à côté de ça, nous nous contentons d'un 5 sur 20 en encouragement pour les autres. Bien que nous ayons chacun des dons spirituels, celui de Paul, par exemple, était l'enseignement. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des experts spécialisés. Reprenons le texte, des versets 11 à 22. Paul fait une liste de choses à faire. C'est un peu la to-do list du bon chrétien. Vous pouvez suivre avec moi et on va prendre ensemble les verbes. Tout d'abord, il y a les choses à faire envers les autres. Encouragez-vous mutuellement et aidez-vous, verset 11. Appréciez les responsables, verset 12. Témoignez de l'affection et vivez en paix, au verset 13. Avertissez, réconfortez, soutenez et soyez patients, au verset 14. Et finalement, recherchez le bien, verset 15, qui résume cette première liste. Et ce sera déjà pas mal. Une attitude de sanctification centrée, là, sur le vivre ensemble, sur la recommandation qu'en Église, nous nous tirions ou nous aidions à aller mutuellement vers le haut. Et continuons toujours en prenant les verbes. Les choses à rechercher pour soi-même et pour Dieu. Soyez heureux, verset 16. Priez sans cesse, verset 17. Remerciez Dieu, verset 18. Et d'un seul ensemble, les versets 19 à 22. Laissez l'Esprit vous parler. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais. Cette fois-ci, c'est une attitude de sanctification visant à entretenir un dialogue avec le Seigneur. Et remarquez la complémentarité entre ces deux pôles. J'entretiens ma vie avec Dieu, j'entretiens ma vie avec les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 29. Paul nous donne ses recommandations pour nous faire comprendre que c'est une attitude globale que recherche le Seigneur. Dans l'Église, sommes-nous de bons enseignants si nous n'éprouvons pas de l'affection pour les autres? Sommes-nous des bons témoins de l'amour de Dieu si je ne suis pas moi-même heureux? Paul nous donne des encouragements complémentaires afin que, malgré nos qualités, nos dons, ce ne soit pas le petit détail qui nous fasse chuter. Soyons de bons témoins de l'œuvre de Christ en ayant une attitude de chrétien complète. Ceci étant dit, je vous propose d'aller vers la deuxième partie de notre étude, prier sans cesse. Bien que le seul verset 17 dans notre texte mentionne la prière, nous devons nous garder de sortir ce verset de son texte et de l'étudier sans le reste. Nous venons de le voir, ce sont deux ensembles qui se complètent. Et la prière fait partie d'un des deux ensembles. Sur le prier sans cesse, Dieu ne nous demande pas de lui parler sans s'arrêter. Évidemment, c'est assez impossible. Cette expression est placée parmi une liste de recommandations que nous avons vues. S'il s'agit de viser une attitude globale pour notre sanctification, nous pouvons en déduire qu'il existe une attitude de prière sanctifiée, ou autrement dit, une attitude recherchant la sanctification qui va améliorer nos prières. Et avec la prière, il y a toujours plusieurs questions qui sont rattachées. Quoi dire ? Comment le dire ? Et pourquoi le dire si au final Dieu est souverain et qu'il fera bien ce qu'il a envie ? La dernière question est un peu plus complexe. Comment le dire n'a pas vraiment d'importance tant que la manière de le dire vous correspond. Tu, vous, Seigneur, Père, Dieu éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sont toutes des manières d'appeler Dieu. Et ce qui compte, c'est que vous vous sentiez bien avec. De toute façon, si vous souhaitez appeler l'Éternel par son véritable nom, c'est imprononçable. YHMV, traduit phonétiquement par l'Église catholique en Yahvé. Deuxième question, quoi dire ? Il y a un chant qui dit que nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour qu'on a pour lui. En fait, Dieu entend nos paroles, mais connaît aussi nos pensées. De plus, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Je cite ici le verset 26 de Romains 8. Sur ce point aussi, nous pouvons être décomplexés vis-à-vis des paroles que nous adressons à Dieu. Et je reprends ma troisième question. Pourquoi le dire si au final Dieu est souverain et qu'il fera bien ce qu'il a envie ? Et si la solution, c'était finalement de faire coïncider ma volonté avec celle de Dieu ? Ce que Dieu souhaite, c'est que nous l'aimions, que nous nous aimions et que tous soient sauvés en Jésus-Christ. Marc 12, 29, déjà cité plus haut, et Jean 3, 16. Le problème, c'est que nous ne savons pas prier dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire prier dans la perspective finale du retour de Christ. Pour le dire de manière plus courte, faire des prières eschatologiques. Est-ce que cette vision eschatologique de Jean 3, 16, le fait que tous soient sauvés au retour de Christ est une chose que je laisse à Dieu ? Ou est-ce que c'est aussi ce que je souhaite moi-même ? Maintenant, au jour le jour, face au silence précédant ma prière, vous savez, à 7h48, pour prier Dieu afin que sa volonté s'accomplisse, le mieux est peut-être de commencer par connaître sa volonté. Ce que nous avons vu en première partie, c'est la to-do list pour se sanctifier. Nous ne pourrons pas prier correctement si nous ne connaissons pas Dieu. Pour mieux le connaître, ayons une relation riche avec lui. Ayons un dialogue vivant avec l'Éternel et aussi envers les autres. Dans prier sans cesse, il y a prier et il y a sans cesse. Et je vous propose un dernier point de notre étude portant sur la persévérance dans la prière. Commençons par Abraham. Abraham connaissait bien Dieu. Il connaissait sa volonté. Quand l'Éternel lui annonce qu'il va détruire Sodome parce que la ville vivait profondément dans le péché, Abraham revient par 5 fois négocier avec Dieu la non-destruction de Sodome. S'il y a tout d'abord peut-être 50 justes dans la ville, puis 45, 40, 20 et finalement 10. Bon, Sodome a été détruite quand même. Mais Abraham a prié avec insistance, car il connaissait la volonté de Dieu, celle de ne pas faire de mal au juste, mais de punir le méchant. Un peu plus tard dans la Bible, Moïse a aussi persévéré dans la prière, à l'époque du veau d'or, pour éviter la destruction du peuple. Il a rappelé à Dieu l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Dieu a trouvé l'argument recevable, et l'alliance a ensuite été renouvelée. Il existe d'autres exemples de persévérance dans la prière, notamment dans les évangiles. Prier sans cesse, c'est avant tout être persévérant dans la prière. Ne pas nous décourager devant la difficulté ou le plus souvent devant notre vision étroite, limitée de l'action de Dieu. Chez Abraham, Moïse ou encore Jésus, nous voyons la connaissance du plan de Dieu. C'est par leur foi dans le fait que Dieu tient ses promesses et par leur connaissance des promesses qu'ils prient, et non pas parce qu'ils semblent être devant eux. Pour acquérir cette connaissance, Paul nous encourage à mettre en œuvre toutes les recommandations qu'il nous donne dans son texte. Pour conclure, prier plus, c'est bien. Prier dans la volonté de Dieu, c'est mieux. Pour cela, nous devons toujours en apprendre davantage sur Dieu. Ayons une vie riche et n'ayons pas peur de nous améliorer sur les aspects de notre vie où nous sommes le moins à l'aise. Ainsi, nous partagerons davantage la vision de Dieu, sa volonté et son plan pour le retour de Christ. Avant que le président ne vienne reprendre la parole pour la suite du culte, je propose d'avoir simplement un temps de silence et utilisons ce temps pour prier silencieusement sur ce message et sur ce que Dieu veut nous dire.